Mode d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, c'est l'émission d'AC, donc Agir ensemble contre le chômage. Je suis avec Ludo, bonjour Ludo.
Bonsoir.
Odile également, et Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Jim au micro, et bien sûr Claude, toujours comme toujours à la technique. Merci à lui de faire la technique ce soir encore. Donc ce soir, nous parlons principalement de la politique de Macron, donc liée d'abord aux ordonnances... sur le droit du travail, sur les CDI d'usage, etc. Et nous parlerons également des contrats aidés, puisque nous sommes principalement nous-mêmes ici concernés, puisque nous avons 5 camarades qui sont en contrat aidé et qui risquent de voir leur contrat ne pas être renouvelé. Donc cette radio va avoir quelques soucis à se faire dans les prochains mois, voire les prochaines années. Voilà. Donc nous appelons bien sûr toutes les bonnes volontés militantes à venir nous soutenir et on fera en sorte de lancer quelques appels à ce micro dans les journées qui viennent pour avoir des actions communes contre cet arrêt des contrats aidés. Donc on va commencer... Donc on reprend cette émission avec donc Odile qui a eu la gentillesse de venir nous parler un petit peu des ordonnances sur la loi travail, hein, sur effectivement la refonte du code du travail. Alors sur quoi portent principalement ces ordonnances, Odile, dans un premier temps une question générale, pour ensuite aller sur évidemment le concret.
C'est vraiment un ensemble de textes qui est extrêmement vaste et avec cinq ordonnances qui sont relatives à la négociation collective pour la première, à la façon dont s'organise le dialogue social dans les entreprises pour la deuxième, donc la troisième ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Alors c'est là que il y a les règles de licenciement avec le plafonnement des indemnités de licenciement, notamment en cas de licenciement abusif. Après il y a ce qui concerne le compte professionnel de prévention. Ça, c'est le numéro 4, représentativité des organisations syndicales, et le numéro 5, compte professionnel de prévention.
Voilà. Ça donc, fait beaucoup de choses d'un coup.
Oui, il devait y en avoir 8 initialement, et en fin de compte, il n'y en a eu que 5, mais il y en aurait peut-être une 6e.
Alors, la négociation, ça a marché. Je veux dire, c'était une vraie négociation, quoi.
Non,
tu n'es pas responsable syndical, mais
non, pas du tout.
La question.
Moi, j'ai rien à voir là-dedans.
Vu le suspense qui a entouré ces ordonnances, quoi.
Je crois que les organisations syndicales ont eu connaissance des textes 2 heures avant la conférence de presse, et puis que effectivement, il y avait eu un semblant de dialogue, mais je pense que sur beaucoup de points, c'est des choses qui avaient été tenues cachées, qu'on savait pas, qu'on a découvert ce jour-là, quoi, le 31 août.
Christophe, vas-y.
Il faut remarquer quand même un peu le sens stratégique du président de la République, parce que lui, il s'appuie quand même sur sa légitimité souveraine en tant que président élu, qui applique une politique déclarée, c'est-à-dire qui l'argument, c'est une promesse de campagne. Je veux réformer le code du travail. Je veux réformer en profondeur
par ordonnance, sur
ordre de l'État, la notion de travail. Donc, on peut pas dire qu'il y a eu en fait, là où il y a un aspect stratégique, c'est qu'il a pris Muriel Pénicaud, qui est quand même une une championne de la négociation syndicale
et du licenciement
puisqu'il a négocié un certain nombre d'arriérés sur ses ordonnances auprès de syndicats réformistes comme la CFDT entre autres, et puis pour provoquer des scissions au niveau même de Force ouvrière pour pouvoir emporter, puisque la loi dit qu'il n'y a qu'une signature nécessaire auprès d'un syndicat partenaire pour que ça soit appliqué.
C'est fini,
sachant que l'ordonnance ça va être ça comme ça.
Et puis c'est dans le cadre des négociations paritaires là. C'est
voilà. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est que en fait il y a un désavantage des syndicats qui est par le fait que très bref la croyance que on ne peut pas se passer de cette réforme du code du travail du fait de la mondialisation, du fait de la concurrence internationale. Et que c'est une nécessité pour redevenir compétitif.
D'accord. Alors on va revenir sur le fond hein, des ordonnances, parce que comme Odile est là et qu'elle connaît un peu le sujet. Bon, est-ce que tu peux nous dire juste comme ça ce qui ressort, ce qui est saillant en fait dans ces accords, parce qu'on a vu que c'est un texte, c'est des textes finalement assez touffus. Hein, on comprend pas toujours tout. Il y a deux trois choses qui ressortent hein, la barémisation du licenciement, l'éventuel inversion de la hiérarchie des normes, mais bon, on ne sait pas dans quelle mesure.
Le plafonnement des indemnités prud'homales.
Exactement, donc ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les TPE, les PME. Donc, toi, qui a suivi toutes les réformes, en fait, hein, depuis un petit moment, mais au moins depuis le quinquennat Hollande, tu penses qu'en fait, ça s'inscrit dans une espèce de continuité, finalement ?
Total. Oui, on a une continuité totale avec ce qui a été fait pendant le quinquennat de Hollande et notamment depuis l'ANI de janvier 2013, la loi de relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Bon, après il y a eu la loi Rebsamen en août 2015, la loi Macron aussi en août 2015
pour étendre fois, au moins 8 fois qu'on réforme le code du travail en fait. Ça fait au moins
tout le temps. Okay. Après il y a eu la loi El Khomri hein, en 2016. Donc on est vraiment toujours sur les mêmes logiques. Hein, de nivellement par le bas, et je crois que on comprend rien si on ne sait pas ce que c'est que le droit du travail, pourquoi c'est en apparence aussi compliqué. C'est que simplement le droit du travail il évolue continuellement du fait de l'action syndicale dans les entreprises, du fait des conflits du travail et du fait de la jurisprudence, c'est-à-dire que les juges sont confrontés à des situations. Et donc, à chaque fois, il y a une réinterprétation du texte de loi, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des cas où, la loi, ça peut pas marcher, donc on est obligé de faire autre chose. Bon, à chaque fois, c'est des conflits, c'est la lutte de classe, hein, c'est comme ça. Et donc, ces textes de loi, sur certains points, peuvent, à un moment donné, décider d'intégrer des jurisprudences favorables aux salariés. Ça arrive. Ils l'ont fait. Par exemple, le texte de loi du 20 août 2008 sur la représentativité des organisations syndicales a pu intégrer certains aspects de la jurisprudence qui étaient favorables aux salariés, hein, puisque maintenant, les salariés des sous-traitants ou des entreprises de travail temporaire peuvent voter éventuellement dans les murs de l'entreprise où ils travaillent véritablement.
Rappelons que c'était Sarkozy. Hein.
Oui, et voilà. Donc, il y a des petits points comme ça sur lesquels la jurisprudence est intégrée, mais globalement, on détruit la jurisprudence et on oblige à repartir à zéro. Alors, c'est ça qui se passe.
Justement, est-ce qu'on va, selon toi, vers une dérégulation du travail parce que c'est un terme qui est utilisé très souvent quand même. Hein.
Bien sûr. Mais on y va depuis 40 ans. Hein. Moi, je dis, ça remonte à, disons, aux années 80, hein, tout ça, parce qu'on a vu déjà même c'est quand on regarde les lois Auroux, il y avait beaucoup de choses positives dedans, hein, qui donnaient plus de possibilités d'expression pour les salariés. Bon, c'est dans les entreprises. Puis en même temps, il y avait déjà des petits trucs qui clochaient, quoi, par rapport à cette inversion de la hiérarchie des normes, notamment. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça remonte à il y a très longtemps.
D'accord. Pour un résultat sur l'emploi qui est proche de nul, quoi. parce que
ah ben
bah,
il est plus que nul, puisqu'on voilà. détruit tout et,
donc,
et toutes les sécurités. On détruit toutes les sécurités. Alors c'est marrant parce que le texte de la conférence de presse du Premier ministre, bon, c'est une présentation qui nous dit en gros que c'est une réforme qui va dans le sens du progrès social sur plein de choses et qui va donner plus de droits aux salariés, plus de possibilités d'expression, de représentation, etc. C'est comme ça qu'on nous le présente. Alors, il y a des petites avancées ponctuelles sur certaines choses. Par exemple, c'est vrai que les indemnités de licenciement vont passer c'était 20% de mois de salaire par année d'ancienneté. Bon, là, c'est passé à 25%. Oui. Donc, il y a une petite augmentation. Voilà,
il y a
des petites choses. Mais pour tout le reste, on aligne vers le bas. D'accord. Et c'est comme ça depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une cohérence totale dans tout ça, quoi.
Christophe ?
Oui, par rapport à ça, il y a une excellente chronique de Denis Clerc, qui est fondateur donc, d'Alternative Économique. C'est, je cite le titre de l'article, c'est un dossier de fond, c'est « Ordonnance, un pari hasardeux ou peut-être bénéfique ». Et en fait, toute la question, lui, par rapport à ces ordonnances, il dit le vrai problème, il est simple, hein, c'est que est-ce que les pertes que subiront certains salariés en termes de droits, en termes d'indemnités et tout, seront compensées par le fait que il y aurait des embauches plus nombreuses. Et alors, c'est là où on arrive à une chose qui est très intéressante, c'est que indirectement, les conseillers d'Emmanuel Macron et tout ce qu'il y a derrière s'appuient sur ce qui se passe dans les pays scandinaves. C'est-à-dire qu'ils disent il y a une plus grande flexi-sécurité de l'emploi, une plus grande précarité, mais c'est vrai que les conditions du travailleur se sont fortement dégradées. Seulement, ce qu'ils oublient de dire, et c'est un détail qui change tout, c'est que d'abord, il y a un apport culturel, une culture de l'emploi qui est complètement différente dans les pays scandinaves. Et deuxièmement, il y a des services publics pour retrouver de l'emploi et s'adapter en termes de cursus de formation, de cursus de panel d'emploi qui sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire le produit intérieur brut de ces pays-là au niveau des services publics par rapport à la recherche d'emploi n'est en rien comparable avec l'État français.
Et puis l'investissement qui
sachant qu'on est dans un pays qui est très, par essence, très monarchique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça arrange qui ces ordonnances en fait? Bah, c'est ceux qui sont les vainqueurs de la mondialisation, c'est-à-dire les diplômés, les entreprises du CAC 40. C'est clair, quoi.
On peut peut-être aborder le sujet tout de suite. Hein. Finalement, la flexi-sécurité, c'est les grands perdants de ces ordonnances. Même si c'est vendu à cette sauce-là, on sait très bien que c'est devenu un gadget dans le discours, français, hein, sur les réformes du Code du Travail. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, aucune situation en entreprise n'est comparable à ce qui se passe en Allemagne en termes de cogestion. L'indemnisation des chômeurs n'est pas comparable à ce qui se passe dans les pays nordiques. Et il n'y a rien dans cette réforme qui annonce une amorce de flexi-sécurité ou très peu de choses.
Il va y avoir autre chose parce qu'il y a une réforme qui est prévue de l'UNEDIC. Mais ça, on n'est pas encore. Alors, il y a eu effectivement un rapport d'une étude qui est parue à ce sujet-là au mois de juillet sur le fonctionnement de l'UNEDIC et sur les mesures qu'on pourrait préconiser avec différents scénarios. Hein. Donc, on ne sait pas exactement parmi tous ces scénarios-là lequel va être retenu parce que il doit y avoir pareil un processus de négociations avec les organisations syndicales, etc. Donc ça va commencer très très vite, je pense.
Oui.
Donc là, il y a quand même dans les grandes lignes, il y a quand même l'idée que on pourrait à la fois élargir beaucoup le régime d'assurance chômage, puisqu'on l'élargirait aux personnes, aux indépendants, hein, puisque le régime social des indépendants serait supprimé. On les ferait rentrer dans le régime général. Il y aurait élargissement aussi aux personnes qui ont démissionné de leur emploi à certaines conditions. Mais bon, ça existait plus ou moins déjà parce qu'il y avait. Voilà. Par contre, il y aurait une espèce d'alignement vers le bas avec des allocations, une allocation unique qui serait probablement une allocation réunissant l'allocation chômage et l'allocation de RSA ou de la SS et plus beaucoup de liens entre le salaire et l'allocation de chômage en fait.
D'accord. Oui, moi, j'aurais voulu juste qu'on jette un peu le projecteur dans le cas des ordonnances sur les CDI d'usage, dits de chantier aussi. qui me semble.
Non, c'est pas tout à fait pareil, mais ça
ressemble un peu. C'est-à-dire, c'est des CDI d'usage sont un peu des CDD puisque c'est de date à date. Hein. C'est pendant la mission de la construction d'un bâtiment ou de
d'une enquête,
etc. Donc ces CDI qui sont CDI, c'est normalement c'est à vie, c'est a priori. Sauf
c'est des CDI de chantier.
CDI de chantier,
c'est mission,
ça.
En fait,
ouais,
hein,
c'est ça, des missions, voilà.
Que dit justement ces
ordonnances sur les CDI de chantier, d'usage?
Oui, enfin, je crois que ça parle de contrat de mission aussi. En gros, c'est l'élargissement de cette possibilité à beaucoup de branches. Enfin, ça sera sur accord de branche que ça se fera tout ça. Hein.
D'accord. Donc ça veut dire que ça peut généraliser.
Le principe de base, c'est l'inverse. Enfin, c'est ce qu'on a appelé l'inversion de la hiérarchie des normes. Mais en fait, c'est le code du travail ne régira plus grand chose de ce qui se fait. C'est-à-dire, il y aura les accords d'entreprise et les accords de branche qui prédomineront sur la plupart des sujets. Alors, les accords de branche restant quand même prioritaires et, disons, prédominants par rapport aux accords d'entreprise sur une liste de thèmes majeurs de 11 thèmes. Alors, il y a les salaires minima hiérarchiques, ça reste de la branche. Les classifications, les fonds de financement du paritarisme, les fonds de financement de la formation professionnelle, les garanties complémentaires mentionnées dans le code de la sécurité sociale. Donc, je suppose qu'il y a les retraites complémentaires, etc. Les mesures relatives à la durée du travail et à la répartition et à l'aménagement des horaires. Ça aussi, ça reste dans les branches. Les mesures relatives au CDD. Alors ça, c'est par contre, les branches auront la possibilité de décider de beaucoup de choses en ce qui concerne la réglementation des CDD, hein, en particulier la durée possible et la possibilité de faire des contrats de très courte durée, hein, comme les contrats d'usage. Les contrats d'usage existent déjà depuis 1982.
D'accord.
Et ils sont très, très utilisés au point qu'un rapport a souligné qu'il y a 3 700 000 contrats d'usage signés chaque année. Donc, c'est vraiment quelque chose de très employé.
Ils étaient réservés à certains secteurs et c'est certaines conventions collectives.
Oui, c'est des conventions collectives qui l'ont
accepté.
Donc, tout ça, c'est pas vraiment des choses nouvelles. Hein. Mmh. Et les mesures relatives aux CDI de chantier sont également décidées dans le cadre de la négociation de branche. Donc, contrat de chantier, qui n'est pas le CDD. Hein,
n'est pas le CDD, d'accord.
C'est pas la même chose.
C'est
un contrat qui est signé dans le but de...
Il n'y a pas de date de fin, c'est-à-dire
de l'accomplissement d'une tâche précise. Hein, quand la tâche est terminée, le contrat se termine.
D'accord.
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les conditions de renouvellement de durée et de renouvellement de la période d'essai... Et le 11e, la poursuite des contrats de travail entre deux entreprises lorsqu'il y a changement d'entreprise.
Bon. Mais alors j'ai cru comprendre quand même qu'il était possible que par un référendum d'entreprise pour les entreprises de moins de 20 salariés, finalement la négociation atterrissait au niveau de l'entreprise.
Absolument.
Et je crois même que dans le texte, il est même prévu que elle peut prendre des compétences des accords de branche si elle donne des droits équivalents. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se négocier.
Un certain nombre de petites entreprises ou de moyennes entreprises peut décider par voie de référendum sans référer au syndicat, donc moins de 50 salariés, de dire demain, pendant 6 mois, parce que les commandes sont remplies, au lieu de faire 35 heures, vous en faites 42.
Alors apparemment aussi sur la durée de travail, il y a des possibilités d'en faire, je crois que c'est même jusqu'à 60, hein, pour être honnête.
Enfin, je dois dire qu'il y a quand même un peu de flou dans tout ça, c'est que déjà par rapport à la loi El Khomri de 2016, il y a des petits changements parce que dans la loi El Khomri de 2016, il y avait cette inversion de la hiérarchie des normes pour tout ce qui concerne la durée du travail et l'organisation, la répartition des horaires, mais c'était plus, je crois qu'il y avait la possibilité de conventions d'entreprise. Mais là, tout ça apparemment reste du domaine de la branche, quoi. Donc, il y a élargissement du principe de l'inversion de la hiérarchie des normes, mais en même temps, c'est pas évident. Alors, c'est à l'usage qu'on verra comment ça se passe.
Alors, qu'est-ce qui change réellement là, par rapport à ça? Si beaucoup de choses restent à la branche, qu'est-ce qui est à l'entreprise? Par exemple, pour faire concrètement un chômeur qui va s'engager par une entreprise, qu'est-ce qu'il doit négocier avec son patron? Il négocie quoi? Son salaire, son temps de travail, son travail de nuit ou de jour? Qu'est-ce qu'il négocie exactement, pour le coup?
Je pense
pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas toujours...
Il y a plusieurs questions. Je pense que la possibilité d'une négociation d'entreprise va être étendue, mais surtout, ce qui est grave, c'est que les modalités de la négociation vont être complètement transformées. Il n'y a plus de nécessité d'un représentant syndical.
Pour les petites entreprises.
Ça veut tout dire.
De moins de 20 salariés qui n'existent pas
déjà.
Les trois quarts du temps.
Oui,
sauf que c'est
mais,
une exigence
même,
du patron.
Même moins de 50 entreprises, je crois qu'il peut y avoir un élu
du personnel
qui négocie. Bon, et après...
Je précise une chose. Une entreprise de moins de 20 salariés ou moins de 50 salariés n'est pas dans l'obligation d'organiser des élections professionnelles pour élire un représentant du personnel.
Oui, mais en cas de litige, on peut se faire représenter par quelqu'un qui est mandaté. C'était une exigence du patron de faire sauter ce mandatement.
Absolument.
Sous prétexte qu'ils avaient peur que les syndicats mettent les pieds dans leur entreprise.
Tu peux très bien être dans une boîte de moins de 50 salariés et demander par exemple à une organisation syndicale d'avoir un représentant juriste qui va négocier telle ou telle chose. C'est ça qu'ils veulent sauter.
Toujours est-il que ensuite, effectivement, il y a la possibilité d'organiser un référendum d'entreprise.
Oui, mais alors dans une entreprise moins de 20 salariés, bonjour la pression patronale, hein, c'est ça aussi.
Oui, enfin.
Le rapport de force, il n'est pas toujours en faveur dans les TPE, en faveur des
oui,
salariés.
Oui, donc partant de là, je crois qu'il y a des nouveaux usages qui vont s'instaurer, quoi. Ça peut être sur beaucoup de choses, hein, ça peut être sur. Par exemple, les situations familiales. Enfin, je pense aux femmes en particulier. Les conditions, par exemple, en cas de maladie des enfants ou en cas de congé de maternité. Il y a des tas de choses qui pourront se négocier.
Les RTT aussi.
Les RTT, moi, je pense que ça va rester du domaine de la branche, mais en partie. Mais ça sera à l'usage qu'on verra toutes ces choses-là.
Je me disais, mais finalement, est-ce qu'il manque pas aussi un bilan de toutes ces lois qui ont été suivies, c'est-à-dire un bilan de la négociation et de ce qu'a produit la négociation? Parce qu'on a l'impression d'avoir une avalanche de textes où on n'a aucune visibilité sur les effets concrets. Les effets concrets de l'ANI, les effets concrets de la loi El Khomri. Oui. On a plutôt l'impression qu'il n'y a rien à négocier. En entreprise, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien à négocier en dehors du salaire, éventuellement de la durée du travail, des choses qui étaient intangibles du point de vue du code du travail. Et aujourd'hui, est-ce que les accords sont si nombreux? En fait, la question, c'est est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Est-ce que les réformes du travail ont changé quoi que ce soit sur la durée, en fait?
Oui, il y a une première donnée, notamment sur d'ARES et puis ensemble de données sociales que je possède. C'est que pour les emplois peu qualifiés, il y a une flexibilité, une précarisation plus importante. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont au minima sociaux, qui sortent du minima social quelque temps parce qu'ils ont des contrats très courts à la journée ou autre. Et voilà, c'est ça. C'est un
70% des contrats des nouvelles embauches sont CDD de moins d'un mois.
Alors, j'aurais aimé quand même juste, parce que je sais que tu dois bientôt partir, mais j'aurais juste que tu me racontes un petit peu ce que tu as compris de la modification des règles de la négociation collective. Cette refonte, effectivement, le CHSCT qui va dans le même organisme avec le délégué du personnel, le syndicat, etc. Est-ce que ça peut être un peu un foutoir généralisé ou comment ça marche tout ça?
Là encore, c'est les institutions de représentation du personnel. Il y aura un accord de branche pourra décider de les fusionner, quoi, entre délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT également. Mais ça, c'était déjà fait par la loi Rebsamen un petit peu, puisque jusqu'à 300, elle a étendu la possibilité de DUP, hein, délégation unique du personnel, dans les entreprises de moins de 300 salariés. Mais après, cette loi-là donne la possibilité à toutes les entreprises de le faire. Voilà, donc il y aura une compression des effectifs. Bon, ce qui est effectivement, et en plus, il y aura la possibilité de faire un accord d'entreprise qui décide de toutes les modalités de la négociation collective dans l'entreprise, aussi bien du contenu des négociations que de la périodicité.
Tu peux répéter ça, c'est un accord d'entreprise qui va fixer le calendrier de négociation.
Voilà, c'est un accord d'entreprise.
Et donc les dirigeants s'entendront entre eux
qui va réguler finalement toute cette négociation d'entreprise. Alors, donc
c'est une arme antidémocratique parce que ce qu'on appelle les comités techniques, donc le CHSCT sur tout ce qui est hygiène et sécurité au niveau représentation du personnel, sur les problématiques, mais l'intérêt des comités techniques dans les entreprises aussi bien moyennes que grandes, c'est le droit à l'information. Or, qui te dit droit à l'information de par les représentants syndicaux, dit possibilité de s'organiser, de contester telle ou telle mesure. Si on fusionne, on ne fait que un comité qu'on va appeler
comité économique et social,
il y aura moins de possibilités de droit à l'information et donc d'organisation de fait.
Oui,
c'est ça la logique.
Moins il y aura de représentants du personnel, plus ce sera facile de verrouiller un peu cette instance-là. Et puis, il y a aussi cet accord d'entreprise peut décider de quelles informations le chef d'entreprise doit transmettre aux représentants des salariés.
Ah oui, alors là, oui,
tout dépend effectivement de quels syndicats on aura et qui arriveront à avoir une représentativité, parce qu'il y a la loi de 2008 sur la représentativité des organisations syndicales a beaucoup déjà changé les choses. Donc, selon les syndicats qui seront représentés, qui seront présents simplement dans l'entreprise, ça changera un petit peu tout.
Alors, juste une dernière question pour ce qui me concerne. Est-ce qu'elles sont effectives aujourd'hui ou elles sont encore en discussion
Les ordonnances rentreront en vigueur en fin septembre.
Il reste encore une date, le 22. Donc c'était au niveau de l'agenda,
la
c'était justement pour savoir.
C'est pour ça que la manif est prévue le 23.
Voilà. Oui, n'oubliez pas d'aller à la manif le 23, absolument.
Mais en tout cas, elles seront effectives fin septembre.
Fin septembre, elles seront
voilà. Le Conseil constitutionnel a validé
d'accord,
l'égalité
pas suivi
des ordonnances.
Cette partie-là, d'accord. Merci Ludo.
En fait, c'est très rapide.
Oui, c'est très rapide. C'est terrible. Tu veux peut-être dire une dernière chose, Odile?
Je dis qu'il faut vraiment se mobiliser pour être dans la rue le 12 septembre avec les organisations syndicales qui s'opposent encore à ces ordonnances absolument iniques.
C'est à Bastille, le rendez-vous, c'est à 14h.
Bastille, à Place d'Italie.
Mardi. 14h mardi, oui. Voilà, donc n'y manquez pas. Je voulais juste rappeler un petit détail qu'on a oublié. C'est quand même les ordonnances qui ont été pondues par notre président jupitérien ne sont pas une priorité des patrons, en fait, ne sont pas une demande.
Oui,
selon
ça.
L'INSEE, en fait, la première raison du fait de ne pas embaucher, c'est la visibilité sur l'avenir, en fait,
du carnet de commande
économique.
Oui, d'accord.
Bien sûr.
Du carnet de commande.
D'où déduit évidemment le carnet de commande. Et la deuxième, c'est le manque de personnel qualifié, ce qui paraît très étonnant, vu le taux de chômage, et particulièrement dans les services. Mais sachant qu'en fait, les entreprises aujourd'hui ne forment plus, elles demandent des gens qui sont déjà ultra formés.
Seulement, elles n'auront jamais ce personnel-là, parce que si on regarde la situation qu'il y a dans le BTP, elle est totalement catastrophique. Et je pense que ça remonte même à 1958, ces contrats de chantier. Donc, vous voyez le résultat.
Voilà, et évidemment, là, en fait, il y a des niveaux de satisfaction, d'insatisfaction dans le sondage, et les BTP sont les plus insatisfaits.
Voilà, sur ces bonnes paroles, on va écouter une petite chanson, on reprend la parole par la suite. Merci. C'est toujours Fréquence Paris-Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs précaires. Nous avons parlé des ordonnances juste avant cette musique et nous allons parler aujourd'hui, maintenant tout de suite, évidemment des contrats aidés qui sont menacés puisque apparemment c'est des contrats dans le domaine non marchand. Apparemment 55 000 emplois aidés sont menacés sur l'éducation nationale. Évidemment tous les contrats aidés des associations également menacés. Ludo, tu as suivi l'affaire des contrats aidés. Tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît.
C'est vite dit, mais enfin bon.
C'est vite dit.
D'abord, il ne s'agit pas seulement des contrats aidés non marchands et non marchands en fait. Les contrats marchands sont aussi en principe impactés, même si je crois qu'il y a 58 000 contrats marchands en fait, hein, contre 400 000, 300 000 contrats. Contrat aidé non marchand. Le souci, en fait, il est simple. Hein. Enfin, il est très simple. C'est qu'on a un président jupitérien élu qui n'a pas dit explicitement pendant sa campagne qu'il allait supprimer les emplois aidés. Il n'a pas dit quand même qu'il allait, dans un premier temps, faire augmenter le chômage. Et qui, une fois en responsabilité, commence symboliquement par baisser les APL de 5 euros. Alors, on me dirait, OK, 5 euros, c'est quand même pas beaucoup, mais bon. C'est quand même des étudiants, hein, la cible prioritaire, les étudiants sont obligés de travailler, bon, symboliquement c'est quand même pas génial. Il augmente la CSG sur les retraités à partir de 1200 euros pour une personne seule, 1800 pour une personne
en couple.
Pour un couple. Et attention, hein, ça représente, à partir de 1200 euros, ça représente 60% des retraités. Donc, je veux dire, les retraites sont quand même pas mirobolantes, hein, puisqu'il y a 40% des gens qui touchent moins de 1200 euros. Alors, vous me direz, et c'est vrai, il veut exonérer la majorité des Français, de 80% de la taxe d'habitation. Donc, si vous faites un... Voilà, on peut supposer qu'un certain nombre de gens de retraités, en fait, seront gagnants. Sauf que un certain nombre de petites retraites sont déjà exonérées de la taxe d'habitation. Donc, bon, il faut voir avec le nouveau calcul, hein, qui sera mis en œuvre, en fait, il est possible qu'il y ait un certain nombre de retraités qui passent en quelque sorte au-dessus, qui passent en fait au niveau des impôts et qui deviennent imposables en fait, hein, puisqu'on augmente la CSG, et donc du coup qui ne soient plus exonérés.
Bon,
mais symboliquement c'est pareil. Alors même si ça représente, la CSG, on ne sait pas combien ça représente aujourd'hui, mais on peut dire, allez, on va dire 10-20 euros. Peut-être maximum par mois, ce qui est quand même pas mal. Même si c'est symbolique, même si c'est peu, bah, symboliquement, voilà, finalement, les seuls qui pourraient être vraiment perdants, c'est les petites retraites. Hein, voilà, parce qu'évidemment, je veux dire, la CSG, vous augmentez la CSG, vous tapez aussi le patrimoine. Et c'est, en fait, c'est l'idée, finalement, c'est de taper le patrimoine des retraités, des forts retraités. Bon, je suis en train de faire une lourde digression, mais hop, troisième mesure, c'est effectivement la suppression des emplois aidés. Et quand je dis suppression, j'exagère à peine, parce que ils ont reculé. Mais enfin, il y a quand même 200 000 contrats aidés qui n'auraient pas dû être renouvelés d'ici la fin de l'année. Hein, donc il y a quand même une baisse de 200 000 emplois aidés d'ici la fin de l'année qui aurait dû se profiler quand même. Hein, c'est-à-dire de 450 000 pour revenir à 300 000, 250 000. Et l'année 2018 va être pire. Parce que là, pour le coup, il ambitionne réellement de mettre un terme à ce système. Et là, on se pose plein de questions. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que les collectivités locales en ont besoin, bien sûr, que l'éducation nationale est une grande pourvoyeuse. Et il y a un troisième secteur qui va être l'urgence. Les associations d'urgence, comme évidemment
comme
les Restos du Cœur, en sont pourvues. Les associations d'insertion et tout le secteur culturel, globalement toutes les associations, en fait. Et elles n'ont absolument aucun relais. C'est celles qui bénéficient le moins de subventions publiques. Bien entendu, hein, je parle des associations les plus petites ou les associations réellement culturelles. Et c'est elles qui risquent de faire les frais du coût de l'extinction de ces contrats aidés. Et là, on est obligé de se dire, bah, tiens, on est quand même devant une politique de droite, en fait, qui, démolit, en fait, le secteur associatif. C'est-à-dire qu'ils veulent tuer, en fait, tout simplement. Sans parler du fait que, vis-à-vis des chômeurs, les emplois aidés, c'est pas l'idéal. Et on est bien... Bon, ici, on peut le
constater, bien sûr.
Mais ça pose quand même une question sur les revenus des chômeurs. C'est-à-dire que les emplois aidés permettaient d'augmenter le revenu de chômeurs de longue durée, essentiellement, même temporairement. Et ils permettent aussi de faire vivre des familles. Donc, vous voyez, un gouvernement qui commence par trois mesures symboliques qui tapent sur les plus faibles, et qui tape sur les chômeurs de longue durée, et qui tape sur les besoins en éducation,
en
solidarité, et ben voilà, quel est le nom de ce gouvernement?
Alors, pour rappeler juste aux auditeurs, auditrices, donc les contrats aidés, il y a donc les contrats d'initiative emploi, les CIE, les contrats starter, donc ça c'est pour les gens en insertion, hein, donc voilà. Les emplois d'avenir et les CAE, hein, voilà, donc tout ça ce sont des contrats aidés. Donc à chaque fois c'est des publics différents, hein, mais c'est à peu près le même corpus, hein, c'est d'ailleurs voilà, c'est 900 euros je crois de mémoire pour un plein temps, enfin ou
non, c'est 900 pour un plein temps, oui,
et 600 pour un 20 heures, je sais plus exactement,
voilà, 600 pour un 20 heures, oui, 800, voilà. 900 pour un
Et ce qui est dit, c'est qu'effectivement dans les contrats aidés c'était quand même des gens qui étaient extrêmement qualifiés au niveau universitaire, parce que c'était, comme tu viens de le dire, des étudiants principalement, hein, qui devenaient pions à une éducation nationale.
Ça dépend où. Il y a une époque où, effectivement, c'est vrai, il y avait une espèce de détournement du principe de ces contrats aidés qui, en principe, auraient dû bénéficier aux chômeurs de longue durée et qui ont été trustés par des primos arrivant sur le marché du travail, surqualifiés, effectivement, et qui éventuellement pouvaient rebondir ça dépendait du type de contrat, en fait, hein, sur ce type de contrat. Aujourd'hui, enfin, en principe, c'est quand même ciblé sur une population de chômeurs de longue durée et de plus de 55 ans. Donc le problème, c'est que la cible, concrètement, là, tout de suite, la cible qui est visée, ben, c'est quand même celle de gens qui ont peu de moyens.
Peu de moyens. Christophe.
Oui, par rapport à ça, en fait, c'est une démarche stratégique, mais à double tranchant pour Emmanuel Macron et ses équipes. C'est-à-dire que le contrat aidé, la force du contrat aidé, notamment dans les communes rurales et puis les petites agglomérations, c'est de faire croire que l'État, par l'intermédiaire que les maires créent de l'emploi. Donc, va avoir un effet catastrophique pour certains départements et certaines communes. Notamment, ça permettait d'avoir un discours pour l'emploi, on fait quelque chose. Ça va pas être le cas. Il y a un gros problème aussi moral, c'est que 40% des travailleurs handicapés sont en contrat aidé. Donc c'est vraiment les plus disqualifiés vis-à-vis de l'emploi qui vont payer
le
prix fort. Alors ça, c'est complètement aberrant. Sachant que c'est une aberration d'autant plus grande que je rappelle que la GFIP, qui est l'organisme qui est chargé de collecter les amendes par rapport aux entreprises qui ne respectent pas leur...
Les 1% pour les handicapés, etc.
Elle est sur un tas d'or qui se chiffre en dizaines de millions d'euros. Parce qu'en fait, les travailleurs handicapés, personne n'en veut. Hein, il y a plus de 35% de chômeurs en taux moyenne de travailleurs handicapés en France. Donc, t'imagines une situation. D'un côté, l'État réduit ses propositions, et d'un autre côté, il y a un tas d'or. C'est complètement aberrant. L'effet, c'est quoi? C'est de fragiliser quelque part tous les élus locaux, hein, qui vont devoir se serrer la ceinture et qui vont peut-être payer dans 2 ans les conséquences au niveau municipal. Alors que Emmanuel Macron et ses collègues, ils font pas ça par hasard.
Mais en même temps, il n'y a pas que l'État va compenser la perte.
Justement, le recours aux emplois aidés, c'est le fait que l'État baisse ses dotations aux collectivités locales depuis des années. Tout d'un coup, on s'aperçoit du manque criant en termes de politique publique et d'effectifs dans la fonction publique. En réalité, moi, je vais revenir sur l'argument de Madame Pénicaud, hein, qui est, paraît-il, une ancienne collaboratrice
ministre du travail,
ancienne collaboratrice de Martine Aubry, qui au départ avait mis en place donc les mêmes contrats aidés, et qui a tranché de façon sectaire à l'Assemblée nationale en disant ces emplois aidés ne créent pas d'emplois. Alors on a envie de lui dire il est possible que effectivement une politique de soutien à l'emploi ne crée pas toujours de l'emploi net
dans l'immédiat
à l'arrivée,
en tout cas, oui, hein.
Voilà. Et qu'en tout cas, c'est quelque chose qui ne se suffit pas en lui-même. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a un gros souci, c'est qu'ils répondent à des besoins. Et ils répondent à des carences, en fait, de l'État vis-à-vis de sa population.
C'est pour ça que certaines écoles, collèges, lycées, ont repoussé la rentrée, parce qu'ils n'avaient plus, effectivement, les personnels qui étaient là auparavant, quoi.
Voilà, et donc, il y a réellement un besoin d'emploi dans la fonction publique.
Bien sûr.
Ça, aujourd'hui, ça paraît évident. Si vous mettez ça à côté des coups de rabot budgétaires dans la fonction publique, on sait très bien que la fonction publique va finir en lambeaux après 10 ans et plus de cures.
Ouais. Alors par rapport à ça, il faut bien comprendre que Emmanuel Macron, en fait, il a deux logiques. Première, il veut faire ça pour réduire son déficit et arriver devant Angela Merkel en disant « j'ai fait des efforts structurels ». macroéconomique. En conséquence, je veux ceci, je veux cela. Donc c'est une logique pour créer une espèce de rapport de force au niveau de l'Europe. Hein, et tout. Mais derrière ça, il y a un autre truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il va s'attaquer à une autre chose, c'est-à-dire en 2018, la réforme des différents régimes de retraite. Et la logique, c'est quoi ? C'est de mettre tous les régimes à égalité. Donc c'est un gros moins-disant social, hein, détruire le régime pour ouvrir aux fonds privés, aux fonds de pension. Donc on est bien dans une logique sous prétexte.
Hein, c'est donc plus de la répartition.
C'est plus de la répartition, on est dans une logique d'oligarchie financière.
Ah oui.
Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il va utiliser comme moyen le fait de faire l'état d'urgence permanent, puisqu'il va le mettre dans la loi. Donc non seulement il y aura un moins-disant social dans un des pays les plus riches du monde institué, mais celui qui protestera contre ça, même si c'est légitime, même si cet argument pourra avoir des conséquences judiciaires.
Alors, on sait qu'à chaque changement de gouvernement ou même dans les ministères, etc., dès que ça change, même au département ou à la région, chacun veut mettre sa patte, donc créer sa propre loi pour apporter un petit peu, pour rester dans l'histoire. Donc là, ils arrêtent les contrats aidés, mais est-ce qu'ils vont remplacer les contrats aidés par autre chose pour... c'est a priori non.
Eh bien, alors, bonne question. A priori, donc, non, parce qu'il faut les moyens budgétaires pour, et c'est pas parti. Donc, cela dit, effectivement, M. Macron parle de réformer le secteur de la formation professionnelle. On a envie de dire tant mieux, vu effectivement tout l'argent qui, pour le coup, est un enjeu important.
Je crois que j'ai entendu parler de 500 millions là, pour la formation professionnelle.
Alors, je ne connais pas les chiffres, mais par contre, les crédits sont sous-utilisés et puis ils sont gérés par l'UNEDIC. Donc, on va voir dans deux ans. Donc, effectivement, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ça n'empêchera pas une augmentation directe du chômage. Et puis, il a confié un rapport à quelqu'un du privé qui gère une association, justement, un secteur d'association privée d'aide en fait à la personne pour étudier la possibilité d'envisager de refaire un système de réformer en tout cas le système des emplois aidés. Enfin, vous savez, comme on disait au début du siècle, quand vous enterrez un projet, vous créez une commission, vous publiez un rapport. Donc, en l'état actuel, sans les moyens budgétaires, il y a peu de chances pour le moment qu'on ait quelque chose pour les remplacer. Or, en termes de financement, il va y avoir un gros manque à tous les niveaux, et comme je le disais, principalement au niveau du secteur associatif, qui n'ont pas les relais
Pour le coup, c'est la mort des associations, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas. Hein,
si même les Restos du Cœur ont des difficultés pour fonctionner...
Bien sûr. Oui. Très bien, on va terminer ce sujet sur quand même... j'appelle tout le monde à venir évidemment dans les différentes manifestations qui vont se produire dans les semaines qui viennent, mais également nous entendrons nous-mêmes ici à cette radio, dans cette station, nous appelons évidemment tous les gens qui sont concernés par ces contrats aidés de nous contacter pour qu'on soit ensemble, qu'on fasse un truc en commun pour justement lutter contre l'arrêt de ces contrats. D'ailleurs, à ce propos, il y a donc un site en ligne qui s'appelle http://rendslescontratsaidés.fr. C'est une pétition. Je ne sais pas qui l'a lancée, mais je crois que ça va dans le bon sens. Signez-la. Et oui, tu voulais rajouter quelque chose, Christophe ?
Oui, alors, c'est par rapport au contrat aidé, c'est le cri du cœur de M. Estrosi, député des Républicains, qui dit: mais M. Fillon et moi-même serions arrivés au pouvoir, vous poussez tous des cris de frais, on aurait fait la même chose, voire pire, on les aurait carrément tous supprimés. ce cri du cœur, évidemment, n'a pas été trop repris dans les médias, mais c'est mignon d'entendre ça.
Très bien.
Je voulais rappeler qu'il y avait une réunion d'information et d'échange des associations qui sont concernées par le projet, alors plutôt des associations du 19e, mais c'est ouvert à toutes les associations, à FPP, mercredi 13 septembre à 17h30, hein, c'est donc au 1 rue de la Solidarité, dans les locaux de Fréquence Paris Pluriel. Et puis il y a une autre réunion qui se tiendra, en fait, qui concernera spécifiquement les salariés donc en CUI de Paris, hein, mais évidemment... tous ceux qui sont en petite couronne peuvent venir, bien entendu. Et ça se passera le jeudi 14 septembre à 19h à la Bourse du Travail. La Bourse du Travail, c'est aux 3 rue du Château d'Eau, métro République. Et je pense que ça sera probablement à partir de 19h. Et donc, j'invite les principaux concernés à se déplacer en nombre.
On rappellera ces annonces à la fin de l'émission.
Oui, il s'agit bien entendu d'envisager la suite. Hein,
la suite de la mobilisation, évidemment.
La suite de la mobilisation et des actions pour...
On s'écoute une petite chanson, ensuite on reprend la parole pour finir l'émission. Oui, c'est à nouveau donc Ludo, Christophe, Gilles au micro de l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs précaires sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec Claude à la technique. Donc pendant cette émission, il reste quelques minutes, pour parler un peu de l'international. Alors on se posait la question dans cette émission, comment l'Angleterre lutte contre le chômage, Christophe ?
Alors, donc on a là parlé il y a quelques minutes des contrats aidés, d'un énorme coup de rabot budgétaire sur les droits des salariés, et puis on me dit, en fait, c'est une logique libérale. Donc cette logique libérale, elle a été appliquée, grâce aux jambes sans terre de Madame Thatcher, par les Britanniques. Hein. Alors, bonne nouvelle, réjouissez-vous, hein, le taux de chômage britannique a de quoi faire panir d'envie l'ensemble du continent européen, hein. Puisque fin juin là de cette année, on est à son niveau le plus bas depuis 1975. C'est formidable, hein, 4,4% de chômeurs. Ouais, sauf que à quel prix?
Oui.
Parce que dans les job centers, on fait des contrats à 0 heure, c'est-à-dire une demi-heure de travail, 1 heure, 2 heures. Et on entend rarement parler de l'inflation qui fait son retour outre Manche. Alors, voilà, c'est un taux de chômage mirifique de 4,4%. Sauf que sur les 32 millions de personnes britanniques qui occupent un emploi, il y a 75% des personnes qui sont âgées de 16 à 64 ans qui occupent un emploi. C'est formidable. Sauf qu'en regardant de plus près, on constate que le dynamisme du marché britannique s'accompagne d'une montée de plus en plus préoccupante de la précarité. En mars, alors qu'elle venait de publier ses chiffres encourageants, l'Organisation nationale donc des statistiques précisait qu'une partie de la hausse du taux d'emploi était due à la montée des contrats dits 0 heure, qui ne garantissent aucun horaire et donc aucune rémunération fixe à l'employé.
Et oui. Bravo.
Alors c'est magnifique, hein, puisque 883 000 personnes restent concernées par ces mesures, alors que en mars dernier, c'était plus de 900 000. Donc la conséquence de ça, c'est que c'est un appauvrissement généralisé de la population, hein, vive le libéralisme, et c'est l'inévitable ralentissement de la croissance, puisque quand vous offrez des salaires misérables, les gens ne peuvent pas consommer. Donc le résultat des choses est très simple, c'est que si effectivement la hausse des salaires outre-Manche s'explique en partie par le paiement de bonus dans le secteur financier, c'est ça en fait qui fait croire que le pays va bien. Il s'agit simplement que du secteur financier, de la haute finance, qui est une grande partie de l'économie britannique et une de ses spécificités. C'est-à-dire que, ça ne se traduit pas dans l'économie réelle par une amélioration significative des revenus. Les entreprises sont clairement enclines à limiter les salaires au moment où elles font face à un contexte économique délicat. Hein, je cite un économiste, Howard Archer, économiste chez EI Item Club, qui est en gros un think tank. Et les économistes sont de plus en plus inquiets. Pourquoi ? Parce que la hausse baisse du pouvoir d'achat britannique est un vrai problème qui ne fait que de s'aggraver de l'inflation. En mai, ces dernières sont ressorties à 2,9%, donc les prix ont quand même augmenté de 2,9%. Hein, c'est bien au-dessus de la cible des 2% qui était fixée. Et donc, la conséquence de ça, de cette baisse de croissance, c'est que la livre sterling a perdu, sachant qu'on va avoir le Brexit, 15% de sa valeur par rapport à l'euro et au dollar. Ben, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la consommation des ménages continue à donner des signes de faiblesse.
Elle baisse, bien sûr.
Elle est en partie responsable du ralentissement de la croissance du produit intérieur brut, hein, qui est de seulement 0,2% au premier trimestre 2017. Et ben, effectivement, l'effet Brexit arrangeant, le pays va encore connaître une hausse de ses prix, donc de l'inflation, mais aussi va être dans une conséquence du début du ralentissement très profond des dépenses des ménages.
Alors voilà, je tiens juste à te rassurer, libérale. Il n'y a pas que l'Angleterre, il y a aussi l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Amérique, les États-Unis, parce que les États-Unis, je crois qu'ils sont à 4% de chômeurs mais ils ont également énormément d'emplois précaires. Et donc, voilà, le monde va très bien.
Conséquence directe et concrète de ça, plusieurs retraités ou futurs retraités britanniques du fait du Brexit commencent de nouveau à réacheter en province française, parce que ça coûte beaucoup moins cher, et que du fait de la conséquence de la déflation de la livre sterling, ils préfèrent être payés en euros, et donc France, go home.
Voilà, très bien.
Alors, on va mettre leurs sous à l'abri en Europe, quoi. C'est en France.
Cette émission va bientôt se terminer. Donc, est-ce que tu pourrais rappeler juste les deux rendez-vous de FPP
absolument,
qui sont extrêmement importants. Il faut absolument que vous soyez là.
Qui se passe mercredi 13 septembre à 17h30. Donc, dans les locaux de FPP, c'est un rue de la Solidarité. Ça concerne des associations qui sont concernées par la suppression des emplois aidés. Et le deuxième qui se passe à la Bourse du Travail le lendemain. Donc, c'est-à-dire le jeudi 14 septembre à 19h à la Bourse du Travail, qui concerne évidemment tous les CAU, enfin les contrats aidés parisiens, qui souhaitent se mobiliser pour éviter un prochain licenciement.
Et je rappelle que Claude, notre technicien, a mis sur le site de la radio RFPP, donc www.rfpp.net, donc l'annonce pour venir à cette réunion, et puis évidemment tout ce qui concerne les emplois aidés. Allez sur le site, bien sûr, pour écouter aussi nos émissions, les émissions des autres camarades. Cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, dames, de l'avoir suivi. Merci à Ludo et à Christophe d'avoir été avec moi ce soir. Merci à Claude pour la technique. Un petit coucou aux filles, un gros bisou, et puis, bien sûr, un poignet de main aux garçons. Ciao.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte otra vez.